Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
La pandémie, Daniel, semble avoir favorisé la corruption, si l'on en croit les résultats de l'enquête de Transparency International, qui, d'octobre à décembre 2020, a interrogé près de 40 000 Européens appartenant aux 27 États membres. Alors le phénomène est-il donc nouveau et tellement important dans l'Union européenne?
Alors Jean-François, si vous le voulez bien, je vais vous donner une définition de la corruption pour commencer.
Oui.
La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. Ça vous plaît?
Bah, au moins, c'est complet.
Au moins, c'est complet. Alors, les 6% d'Européens qui déclarent avoir versé un pot de vin pour accéder aux soins médicaux relèvent incontestablement de cette définition. Pour les 30% qui comptent faire jouer leurs relations personnelles pour obtenir un accès privilégié, la caractérisation est plus difficile à établir. Hors pandémie, selon une enquête d'Eurobaromètre de 2017, 68% des Européens jugent la corruption répandue dans leur pays, avec, il est vrai, une très grande diversité de situations. Selon l'indice de perception de la corruption établi par l'ONG dont vous avez cité le nom, Transparency International, en 2020, les champions de la classe sont, avec un indice très favorable, le Danemark, la Finlande, la Suède, ça ne vous étonne pas?
Non.
Et les cancres sont la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Et en situation préoccupante, on trouve Chypre, l'Italie, la Grèce, Malte et la Slovaquie. Je vous rappelle quand même que dans ces deux derniers pays, des journalistes ont payé de leur vie les enquêtes menées sur la corruption.
Oui, j'allais vous dire que Chypre, Malte, etc., etc., ils ne sont pas blanc-bleu. Mais enfin.
Bon.
Alors, en tout cas, la perception est une chose, c'est comme pour la météo, il y a le ressenti et la température, mais a-t-on une idée plus précise de l'importance et des effets de la corruption dans l'Union européenne?
Alors, selon un rapport déjà ancien, 2016, du Parlement européen, la corruption annuelle représente à l'échelle européenne près de 1 000 milliards 990, très exactement, soit 6,3% du PIB en fourchette haute, et à minima 180 milliards si l'on ne prend en compte que les effets directs de la corruption. S'agissant des effets de cette corruption, on peut signaler qu'économiquement, outre le coût financier, elle crée des distorsions de concurrence au sein du marché unique et elle favorise la pénétration des circuits de l'économie par des groupes criminels. Politiquement, à l'intérieur des États, elle sape la confiance dans le bon fonctionnement des institutions publiques, constitue une atteinte à l'état de droit et donc une menace pour la démocratie. Avec l'extérieur, singulièrement avec les États-Unis, elle sert souvent de prétexte pour infliger aux entreprises européennes des sanctions financières parfois lourdes. Alors cela explique que la corruption apparaisse dans le traité de Lisbonne comme, j'ouvre les guillemets, un des domaines de criminalité particulièrement grave, revêtant une dimension transfrontière. Et ce, au même titre que le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogue, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
Alors, la lutte contre la corruption est-elle une préoccupation majeure de l'Union?
Alors, l'Union se préoccupe de la corruption. Elle est signataire et membre depuis 2008 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que tous les États membres de l'Union. En tant que membre de la Convention, l'Union joue un rôle majeur dans l'adoption en juin 2020 de la résolution sur la lutte contre la corruption adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. Par ailleurs, l'Union est observatrice depuis 2019 auprès du groupe d'État contre la corruption, le GRECO, créé en 1999 au sein du Conseil de l'Europe. Pourtant, si l'on suit les conclusions du rapport publié en novembre 2020 par le Club des juristes, qui est un laboratoire d'idées présidé par Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre français, l'action de l'Union n'est pas à la hauteur de l'ampleur du phénomène à l'échelle européenne. Elle bute sur l'absence d'uniformité des législations en Europe, sur l'application très diverse des mesures inscrites dans plusieurs conventions, notamment de l'OCDE, et sur un suivi des dispositifs anticorruption de l'Union très limité. Ce qui fait dire à Pierre Sella, l'ancien représentant permanent de la France, c'est-à-dire ambassadeur en fait auprès de l'Union européenne, que l'Union, bien qu'ayant compétence en la matière, n'a pas de politique globale, coordonnée et cohérente de lutte contre la corruption.
Alors ces juristes, je suppose, n'en restent pas au constat. Ils font des propositions et ils ont travaillé sur ce sujet.
Et ils en font, en effet, et leur préconisation relève de trois axes. Premier axe, adopter par la voie de directive, aux fins d'harmonisation, un paquet européen anticorruption qui imposerait quatre grandes mesures. Première mesure, l'introduction dans le droit de l'Union européenne d'une obligation de conformité aux recommandations de l'OCDE en matière de compliance. Alors Jean-François, la compliance, c'est défini comme l'ensemble des processus destinés à assurer qu'une entreprise, ses dirigeants ou ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables. Deuxième mesure, le renforcement des mécanismes de coopération efficace entre les États membres au sein d'Eurojust, hein, qui est, on va dire, l'organisme de la justice européenne, et ainsi éviter les conflits entre juridictions nationales. Troisième mesure, l'établissement d'une obligation pour les États membres d'incriminer les faits de corruption, même commis en dehors de leur territoire, mais présentant un lien de rattachement avec lui. Enfin, quatrième mesure, la soumission des entreprises de taille significative à des obligations de prévention et de détection de la corruption. Le deuxième axe, c'est subordonner l'exercice de certaines activités réglementées, banques, assurances, investissements, au respect de clauses anticorruption et ainsi rééquilibrer la relation transatlantique. Le troisième et dernier axe, introduire des clauses anticorruption dans les accords de partenariat économique entre l'UE et les États tiers, afin de défendre les intérêts européens et d'affirmer les valeurs de l'Union. Comme le montrent les manifestations de rue dans plusieurs États membres, la lutte contre la corruption est devenue une revendication massive. Et en décembre 2019, avec la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, l'Union en a fait un enjeu majeur de citoyenneté européenne. Mais Jean-François, le combat sera long.